Chapitre 8. Quelques pages historiques sur Jean Roussel Larsan Ballmeyer. Une heure plus tard, nous étions tous à notre poste et nous faisions les 100 pas le long des parapets sous la lune, examinant attentivement la terre, le ciel et les eaux, et écoutant avec anxiété les moindres bruits de la nuit, la respiration de la mer, le vent du large qui commence à chanter vers 3 heures du matin. Madame Edith, qui s'était levée, vint alors rejoindre Rouletabille sous sa poterne. Celui-ci m'appela, me donna la garde de la poterne et de Madame Edith, et s'en fut faire une ronde. Madame Edith était de la plus charmante humeur du monde. Le sommeil lui avait fait du bien, et elle semblait s'amuser follement de la figure blafarde qu'elle venait de trouver à son mari, auquel elle avait apporté un verre de whisky. « Oh, c'est très amusant !» me disait-elle en frappant dans ses petites mains. « C'est très amusant ! Ce Larsan, comme je voudrais le connaître !» Je ne pus m'empêcher de frissonner en entendant un pareil blasphème. Décidément, il y a de petites âmes romanesques qui ne doutent de rien et qui, dans leur inconscience, insultent au destin. Ah, la malheureuse, si elle s'était doutée! Je passai 2 heures charmantes avec Madame Edith à lui raconter d'affreuses histoires sur Larsan, tout historique. Et puisque l'occasion s'en présente, je me permettrai de faire connaître au lecteur historiquement, si je puis me servir ici d'une expression qui rend parfaitement ma pensée, ce type de Larsan Ballmeyer, dont certains, à l'occasion du rôle inouï que je lui attribuais dans le mystère de la chambre jaune, ont pu mettre l'existence en doute. Comme ce rôle atteint dans le parfum de la dame en noir des hauteurs que quelques-uns pourraient juger inaccessibles, j'estime qu'il est de mon devoir de préparer l'esprit du lecteur à admettre, en fin de compte, que je ne suis que le vulgaire rapporteur d'une affaire unique dans le monde et que je n'invente rien. Au surplus, Rouletabille, dans le cas où j'aurais la sotte prétention d'ajouter à une aussi prodigieuse et naturelle histoire quelque ornement imaginaire, s'y opposerait et me dirait mon fait, raide comme balle. Des intérêts trop considérables sont en jeu, et le fait d'une telle publication doit entraîner de trop redoutables conséquences pour que je ne m'astreigne point à une narration sévère, un peu sèche et méthodique. Je renverrai donc ceux qui pourraient croire à quelques romans policiers, l'abominable mot a été prononcé, au procès de Versailles. Maître Henri Robert et André Hesse, qui plaidaient pour M. Robert Darzac, firent entendre là d'admirables plaidoiries qui ont été sténographiées et dont, certainement, ils ont dû conserver quelques copies. Enfin, il ne faut pas oublier que, bien avant que le destin ne mît aux prises Larsan Ballmeyer et Joseph Rouletabille, l'élégant bandit avait donné une rude besogne aux chroniqueurs judiciaires. Nous n'avons qu'à ouvrir la gazette des tribunaux et à parcourir les comptes rendus des grands quotidiens le jour où Ballmeyer fut condamné par la cour d'assises de la Seine à 10 ans de travaux forcés pour être renseigné sur le type. Alors on comprendra qu'il n'y a plus rien à inventer sur un homme quand on peut raconter une pareille histoire. Et ainsi le lecteur, connaissant désormais son genre, c'est-à-dire sa façon d'opérer et son audace sans seconde, se gardera de sourire quand Joseph Rouletabille, prudemment entre Ballmeyer Larsan et Madame Darzac, jettera un pont-levis. Monsieur Albert Bataille du Figaro, qui a publié les admirables causes criminelles et mondaines, a consacré de bien intéressantes pages à Ballmeyer. Ballmeyer avait eu une enfance heureuse. Il n'est point arrivé à l'escroquerie comme tant d'autres après avoir parcouru les dures étapes de la misère. Fils d'un riche commissionnaire de la rue Mollet, il aurait pu rêver d'autres destinées. Mais sa vocation, c'était la mainmise sur l'argent d'autrui. Tout jeune, il se destina à l'escroquerie comme d'autres se destinent à l'école des mines. Son début fut un coup de génie. L'histoire est incroyable. Ballmeyer subtilisant une lettre chargée adressée à la maison de son père, puis prenant le train pour Lyon avec l'argent volé et écrivant à l'auteur de séjour. « Monsieur, je suis un ancien militaire retraité et médaillé. Mon fils commis des postes a, pour payer une dette de jeu, soustrait dans le bureau ambulant une lettre à votre adresse. J'ai réuni la famille. D'ici à quelques jours, nous pourrons parfaire la somme nécessaire au remboursement. Vous êtes père, ayez pitié d'un père. Ne brisez pas tout un passé d'honneur. » Monsieur Ballmeyer père accorda noblement des délais. Il attend encore le premier acompte, ou plutôt il ne l'attend plus, le procès lui ayant appris, après 10 années, qui était le vrai coupable. Balmeyer, rapporte M. Albert Bataille, semble avoir reçu de la nature tous les attributs qui constituent l'escroc de race. Une prodigieuse variété d'esprit, le ton de persuader les naïfs, le souci de la mise en scène et du détail, le génie du travestissement, la précaution infinie, à ce point qu'il faisait marquer son linge à des initiales appropriées toutes les fois qu'il jugeait utile de changer de nom. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est en dehors d'aptitudes étonnantes pour l'évasion, une coquetterie de fraude, d'ironie, de défi à la justice. C'est le plaisir malin de dénoncer lui-même au parquet de prétendus coupables, sachant combien le magistrat s'attarde par tempérament aux fausses pistes. Cette joie de mystifier les juges apparaît dans tous les actes de sa vie. Au régiment, Balmeyer vole la caisse de sa compagnie. Il accuse le capitaine trésorier. Il commet un vol de 40 000 francs au préjudice de la maison Furet, et aussitôt, il dénonce au juge d'instruction M. Furet comme s'étant volé lui-même. L'affaire Furet restera longtemps célèbre dans les fastes judiciaires sous cette rubrique désormais classique, le coup du téléphone. La science appliquée à l'escroquerie n'a encore rien donné de mieux. Balmeyer soustrait une traite de 1600 livres sterling dans le courrier de messieurs Furet frères, négociants commissionnaires, rue Poissonnière, qui l'ont laissé s'installer dans leur bureau. Il se rend rue Poissonnière dans la maison de monsieur Furet et contrefait la voix de monsieur Edmond Furet, demande par téléphone à monsieur Cohen, banquier, s'il serait disposé à escompter la traite. Monsieur Cohen répond affirmativement et 10 minutes plus tard, Balmeyer, après avoir coupé le fil téléphonique pour prévenir un contre-ordre ou des demandes d'explication, fait toucher l'argent par un compère, un nommé Rivard, qu'il a connu naguère au bataillon d'Afrique où de fâcheuses histoires de régiment les avaient fait expédier l'un et l'autre. Il prélève la part du lion, puis il court au parquet pour dénoncer Rivard et, comme je le disais, le voler, monsieur Edmond Furet lui-même. Une confrontation épique a lieu dans le cabinet de monsieur Espierre, le juge d'instruction chargé de l'affaire. « Voyons, mon cher Furet, dit Balmeyer au négociant ahuri, je suis désolé de vous accuser, mais vous devez la vérité à la justice. C'est une affaire qui ne tire pas à conséquence. Avouez donc, vous avez eu besoin de 40 000 francs pour liquider une petite dette au salon des courses et vous les avez fait payer à votre maison. C'est vous qui avez téléphoné. Moi, balbutiait monsieur Edmond Furet, anéanti. Avouez donc, vous savez bien qu'on a reconnu votre voix. » Le malheureux volé coucha bel et bien à Mazas pendant 8 jours et la police fournit sur lui un rapport épouvantable. Si bien que M. Crupy, alors avocat général, aujourd'hui ministre du Commerce, dut présenter à M. Furet les excuses de la justice. Quant à Rivard, il était condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés. On pourrait raconter 20 faits de ce genre sur Balmeyer. En vérité, à ce moment-là, avant de s'adonner au drame, il jouait la comédie, et quelle comédie! Il faut connaître tout au long l'histoire d'une de ses évasions. Rien de plus prodigieusement comique que l'aventure de ce prisonnier rédigeant un long mémoire insipide uniquement pour pouvoir l'étaler sur la table du juge, M. Villers, et en bouleversant les imprimés, jeter un coup d'œil sur la formule des ordres de mise en liberté. Rentré à Mazas, le filou écrivit une lettre signée Villers, dans laquelle, selon la formule surprise, M. Villers priait le directeur de la prison de mettre le détenu Balmeyer en liberté sur le champ. Mais il manquait au papier le timbre du juge. Balmeyer ne s'embarrassa pas pour si peu. Il reparut le lendemain à l'instruction, dissimulant sa lettre dans sa manche, protesta de son innocence, feignit une grande colère, et en gesticulant avec le cachet disposé sur la table, il fit tout à coup tomber l'encrier sur le pantalon bleu du garde qui l'accompagnait. Pendant que le pauvre Pandore, entouré du magistrat et du greffier, qui compatissait à son malheur, épongeait tristement son numéro 1, Balmeyer profitait de l'inattention générale pour appliquer un fort coup de tampon sur l'ordre de mise en liberté et se confondait à son tour en excuses. Le tour était joué. L'escroc sortit en jetant négligemment le papier signé et timbré au garde de la souricière. « À quoi donc pense M. Villers fit-il de me faire porter ces papiers? Me prend-il pour son domestique ?» Les gardes ramassèrent précieusement l'imprimé et le brigadier de service le fit porter à son adresse à Mazas. C'était l'ordre de mettre sur le champ en liberté le nommé Ballmeyer. Le soir même, Ballmeyer était libre. C'était sa seconde évasion. Arrêté pour le vol furé, il s'était échappé une première fois en passant la jambe et en jetant du poivre aux gardes qui l'amenaient au dépôt. Et le soir même, il assistait, cravaté de blanc, à une première de la Comédie-Française. Déjà à l'époque où il avait été condamné par le Conseil de guerre à 5 ans de travaux publics pour avoir volé la caisse de sa compagnie, il avait failli sortir du Cherche-Midi en se faisant enfermer par ses camarades dans un sac de papier de rebut. Un contre-appel imprévu fit échouer ce plan si bien conçu. Mais on n'en finirait point s'il fallait raconter ici les étonnantes aventures du premier Ballmeyer. Tour à tour comte de Maupas, vicomte Drouet d'Erlon, comte de Motteville, comte de Bonneville, élégant, beau joueur, faisant la mode, il parcourt les plages et les villes d'eau, Biarritz, Aix-les-Bains, Luchon, perdant au cercle jusqu'à 10 000 francs dans sa soirée, entouré de jolies femmes qui se disputent ses sourires, car cet escroc émérite est doublé d'un séducteur. Au régiment, il avait fait la conquête, platonique heureusement, de la fille de son colonel. Connaissez-vous le type maintenant? Eh bien, c'est cet homme que Joseph Rouletabille allait combattre. Je crus bien, ce soir-là, avoir suffisamment édifié Madame Edith sur la personnalité du célèbre bandit. Elle m'écoutait dans un silence qui finit par m'impressionner, et alors, me penchant sur elle, je m'aperçus qu'elle dormait. Cette attitude aurait pu ne point me donner une grande idée de cette petite personne. Mais comme elle me permit de la contempler à loisir, il en résulta au contraire pour moi des sentiments que je voulus plus tard en vain chasser de mon cœur. La nuit se passa sans surprise. Quand le jour arriva, je le saluai avec un grand soupir de soulagement. Tout de même, Rouletabille ne me permit de m'aller coucher qu'à 8 heures du matin quand il eut réglé son service de jour. Il était déjà au milieu des ouvriers qu'il avait fait venir et qui travaillaient activement à la réparation de la brèche de la tour. Les travaux furent menés si judicieusement et si promptement que le château fort d'Hercule se trouva le soir même aussi hermétiquement clos dans la nature avec toutes ses enceintes qu'il l'est linéairement parlant sur le papier. Assis sur un gros moellon ce matin-là, Rouletabille commençait déjà à dessiner sur son calepin le plan que j'ai soumis au lecteur, et il me disait cependant que, fatigué de ma nuit, je faisais des efforts ridicules pour ne point fermer les yeux. « Voyez-vous, Saint-Clair, les imbéciles vont croire que je me fortifie pour me défendre. Eh bien, ce n'est là qu'une pauvre partie de la vérité, car je me fortifie surtout pour raisonner. Et si je bouche des brèches, c'est moins pour que Larsan ne puisse s'y introduire que pour épargner à ma raison l'occasion d'une fuite. Par exemple, je ne pourrais raisonner dans une forêt. Comment voulez-vous raisonner dans une forêt? La raison fuit de toutes parts dans une forêt. Mais dans un château fort bien clos, mon ami, c'est comme dans un coffre fort bien fermé. Si vous êtes dedans et que vous ne soyez point fou, il faut bien que votre raison s'y retrouve. » « Oui, oui, répétai-je en branlant la tête, il faut bien que votre raison s'y retrouve. »« Eh bien, là-dessus, me fit-il, allez vous coucher, mon ami, car vous dormez tout debout. »